Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avait donné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation dans le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, pardon, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On peut quand même invoquer Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Voilà, mes bien chers frères, bien chers amis, nous en sommes au chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Matthieu, sur le polycopier, donc qui regroupe les chapitres 21 à 25 de Saint Matthieu. Nous en sommes en bas de la page 3. Donc nous venons de terminer la partie de l'Évangile qui explique les rameaux de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive, il est juché sur une ânesse, et les habitants de Jérusalem mettent sur eux, enlèvent leurs vêtements et font une haie d'honneur, un chemin d'honneur à notre Seigneur Jésus-Christ avec leurs vêtements et des palmes qui coupent aux branches des palmiers. Alors n'oublions pas ce que j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas, l'avertissement, le grand avertissement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est certainement l'avertissement sur lequel il faut que nous méditions très très fréquemment. Cet avertissement, nous l'avons déjà vu dans les textes des Pères. Il est en bas de la page 3, il est important, c'est pour ça que je l'ai mis en caractère gras. Notre Seigneur Jésus savait que 5 jours après, il serait crucifié par ceux-là même qu'il avait honoré à son entrée dans la ville, et que ceux qui criaient maintenant Hosanna, Hosanna au fils de David, seraient les mêmes qui, devant le siège de Pilate, hurleraient crucifiez-le, crucifiez-le. N'oublions pas que ça, c'est notre histoire à nous, mes bien chers frères. Mon histoire à moi aussi. C'est notre histoire. Combien de fois est-ce que nous faisons la même chose? À chaque fois que nous offensons le bon Dieu, à chaque fois que nous offensons le bon Dieu, eh bien nous crucifions notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de notre cœur. Et donc, lorsque nous faisons une bonne confession, on quitte le confessionnal avec l'intention délibérée, franche, de ne pas recommencer. Et puis malheureusement, très vite, nous retombons. Et donc, nous faisons exactement comme les Juifs et comme les disciples de notre Seigneur qui ont trahi notre Seigneur au soir du Jeudi Saint. En bas de la page, c'est là où nous en sommes, en bas de la page 3, c'est le polycopier, donc chapitre 21, je ne dis pas de bêtises, chapitre 21 de Saint Matthieu. Nous en sommes au verset 9. Le Christ, rejeté par les Juifs dans la vie et crucifié dans la mort, après sa résurrection, devient la pierre d'angle de l'Église, contenant et connectant tout l'édifice, en unissant les Juifs et les gentils dans le sein de son Église. N'oubliez pas que c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ veut, qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. C'est ce qu'il veut signifier par la parole Hosanna au fils de David. Il veut que tous les Juifs et tous les catholiques prononcent cette parole Hosanna au fils de David, et donc que les catholiques restent fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ et que les Juifs reconnaissent que notre Seigneur Jésus-Christ est déjà venu. Et donc, il ne faut plus qu'ils attendent un Juif à venir, un notre Seigneur à venir, puisqu'il est déjà venu, qu'il reviendra simplement à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Dans la bénédiction des rameaux, nous prions pour que, portant des palmes et des branches d'olivier, nous puissions, avec nos bonnes œuvres, rencontrer le Christ et par lui entrer dans la joie éternelle. Donc, ces manifestations de joie, ces vêtements qui sont mis sur le sol, ces palmes qui sont coupées, ces rameaux d'olivier qui sont déposés devant le passage de notre Seigneur représentent les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres font pas tout. Il faut la charité pour que ces bonnes œuvres puissent fructifier. Une bonne œuvre sans charité, ça vaut rien. De même que la foi sans les œuvres ne vaut rien. Il faut les deux, la foi, il faut la foi et l'application de la foi par la vertu de charité. C'est la charité qui va donner sa vie à la foi. Une foi sans les œuvres est une foi morte, nous dit Saint Jacques. Donc attention à ça. Petite précision des pères, en bas de la page 3 sur le polycopier. Le mot Hosanna proprement ne veut pas dire la gloire mais le salut. Car notre salut par le Christ fait la gloire de Dieu. Dans la préface du sacrifice de la messe, au trisagion saint, saint, saint est ajouté Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc il nous faut accueillir notre Seigneur Jésus-Christ qui vient au nom de Dieu et qui est Dieu lui-même, pas simplement par notre foi, mais aussi par la pratique de notre foi, c'est-à-dire par la charité. La charité, c'est ça. La charité, c'est, je l'ai déjà dit très souvent, mais il faut bien mettre les choses au point là-dessus, parce que c'est très important à comprendre. La charité, c'est d'abord l'obéissance. Il n'y a pas de charité sans obéissance à la loi du bon Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la charité surnaturelle, la vertu théologale de charité, sans obéir à la loi de Dieu. Celui qui n'a pas l'obéissance à la loi du bon Dieu, qui en fait qu'à sa tête à longueur de journée, ne peut pas prétendre avoir la charité. Donc sa foi, dans ce cas-là, est une foi informe, une foi qui est en train de mourir. Nous devons, en haut de la page 4, nous devons ainsi prier, non pour le Christ, mais pour nous, par le Christ, pour notre salut, demandant à ce que lui aussi soit béni, adoré et loué, pour qu'en retour il dispense ses grâces et ses bénédictions sur nous. Et ses grâces et ses bénédictions sur nous vont nous permettre, avec sa grâce justement, de remplir la loi du bon Dieu. Et ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la voix, la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et la parole de Dieu, il nous manifeste les 10 commandements de Dieu. La charité consiste à obéir à ces 10 commandements de Dieu. Ça, c'est vraiment une chose à bien comprendre. Sans l'état de grâce, mes actions ne valent rien. Sans état de grâce, je ne peux rien gagner pour le ciel. Tout ce que je peux faire sans état de grâce, c'est de bouillie pour chat, comme on dit. Parce qu'il manque l'essentiel. Il manque cette charité qui va vivifier la foi. La foi ne suffit pas. Encore une fois, rappelez-vous, les démons croient et tremblent. Donc les démons, d'une certaine façon, une foi informe, bien sûr, si on parle de la charité, mais ils ont la foi. Le démon croit à la Sainte Eucharistie, le démon croit en la virginité de notre Seigneur Jésus-Marie, le démon croit à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la présence réelle, etc. Il croit en tout ça. Mais il n'a pas la foi, il n'a pas la charité qui vivifie la foi. Oh, la page 4, nous sommes maintenant au chapitre 21 de Saint Matthieu, versets 10 à 16. Et lorsque notre Seigneur fut rentré dans Jérusalem, toute la ville fut émue et disait « Quel est celui-ci ? » Et le peuple disait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des colombes. Il leur dit « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les princes des prêtres et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple et qui disaient « Hosanna au fils de David », s'indignèrent. Et lui dirent « Entendez-vous ce qu'ils disent ?» Jésus leur dit « Oui. N'avez-vous jamais lu cette parole de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, vous avez tiré une louange parfaite. » Eh bien, on aurait bien besoin d'avoir de nouveau un Dieu qui vienne dans son temple pour faire un peu le ménage. On a sérieusement besoin aujourd'hui. Alors voilà ce que les commentaires des pères, en bas de la page 4. Jésus entra dans le temple de Dieu comme un bon fils qui se hâte dans la maison de son père pour l'honorer. Nous devons faire la même chose et visiter le bon Dieu au tabernacle dès qu'on entre dans une ville. Le Christ est un bon médecin qui, entrant dans une cité malade, s'applique d'abord à la source de la maladie. Donc, ce que veut dire ici les pères, c'est qu'il faut d'abord s'occuper du bon Dieu. Hein. Les prêtres, en faisant tout le temps, lorsque je suis parti pendant quelques heures, que je reviens, quelques jours, que je reviens dans ma petite petit appartement à Padiès, dans le Tarn, eh bien, la première chose que je dois faire, c'est évidemment aller adorer le patron. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, il m'attend au tabernacle. D'abord, on passe quelques secondes devant le Saint-Sacrement pour adorer notre Seigneur, qui est le maître des lieux. Puis, on va faire ce qu'on a à faire. D'autres. Hein. Donc, c'est un peu la même chose pour nous tous. Donc, il faut d'abord adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une petite remarque pour les fidèles aussi. Je pense que c'est important quand ils rentrent dans une chapelle, par exemple pour la messe du dimanche, qu'ils réalisent peut-être un peu mieux, un peu plus ce qu'ils font. Je vois parfois des fidèles qui rentrent dans une chapelle, dans la mienne par exemple, ou d'une autre chapelle, ça m'est égal, une chapelle traditionnelle, et qui tout de suite s'assoient et attendent comme s'ils étaient dans une salle de spectacle. Pas du tout, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Donc dès qu'on arrive dans une chapelle, on commence par la position à genoux, au moins pendant quelques secondes, quelques minutes, pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, éventuellement, on s'assoit pour attendre le début de la messe. Mais c'est important de commencer par la position à genoux, sauf bien sûr pour des gens qui, pour des raisons physiques, ne peuvent pas se mettre à genoux. Les personnes très âgées, ou des personnes qui ont de l'arthrose, je ne sais quoi, peuvent. C'est autre chose. Mais je pense que c'est important, ces extérieurs sont importants. Donc apprenez à vos enfants, par exemple, à avoir ces signes extérieurs de respect dans la chapelle. Par exemple, apprenez à un enfant de commencer par mettre son doigt dans l'eau bénite, dans le bénitier pas trop haut, faire le signe de croix avec l'eau bénite, faire une belle génuflexion. Parfois des enfants qui font une génuflexion n'importe comment, parfois dos au tabernacle, bon, parce qu'on ne leur a pas expliqué ce qu'était une génuflexion, qui est un acte d'adoration à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, on commence toujours par une position à genoux. Des petits détails aussi, mais c'est des détails que j'ai appris au séminaire. J'avoue que quand je suis rentré au séminaire, c'était en 1974, j'ignorais ces choses-là, je ne savais pas très bien tout ça. Je me rappelle Mgr Lefebvre qui nous avait dit, rentrant au séminaire, il avait remarqué que les séminaristes mettaient souvent leurs pieds quand ils étaient assis sur les agenouilloirs, et nous a fait la remarque, les agenouilloirs, c'est pour les genoux, c'est pas pour les pieds. Et je n'ai jamais oublié cette remarque. Mgr Lefebvre nous avait dit aussi qu'on ne croise pas les jambes dans une chapelle, par respect pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est valable pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Beaucoup de femmes ne font pas attention et croisent les jambes dans la chapelle. Non, même pendant un sermon, on ne croise pas les jambes par respect pour notre Seigneur. On n'est pas dans une salle de spectacle, on est dans un lieu, le lieu officiel d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc attention à tous ces détails. Tout peut sortir du temple de Dieu, le meilleur et le pire. Quand les sacerdotes se portent bien, disent les pères, toute l'église s'en ressent. Mais s'il est corrompu, la foi en pâtit. Comme il faudrait méditer ces paroles aujourd'hui. Une autre phrase des pères, ainsi si on voit un arbre dont les feuilles sont pâles, on sait qu'il y a une maladie dans sa racine. De même, disent les pères, si on voit un peuple indiscipliné, on peut en conclure sans hésitation que son sacerdoce est malade. Parfois, les gens me posent la question, par téléphone, par message ou de vive voix. Il me pose la question, monsieur l'abbé, pour vous, quel est le grand responsable de la destruction de notre pays? Comment se fait-il que la France, qui était fille aînée de l'Église, qui en principe l'est toujours, soit tombée littéralement au niveau d'un pays du tiers-monde, sur tous les plans, encore plus bas qu'un pays du tiers-monde, sur le plan spirituel d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on est tombé si bas? Pourquoi la France est-elle devenue une gigantesque jungle? Imagine une bande de requins qui s'entretuent entre eux, c'est la France actuelle, ça, faut pas se faire trop d'illusions. Pourquoi? Qui a la première responsabilité? Et quand on me pose cette question, je réponds toujours la même chose. Hein. Ceux qui ont la première responsabilité sont les prêtres de l'Église de Vatican II qui ont arrêté de faire leur travail. Celui qui a la première responsabilité pour moi de la destruction de milliers et de milliers, pour pas dire de millions d'âmes en France et ailleurs, c'est Bergoglio. Ce sont les évêques de l'Église de Vatican II, ce sont les prêtres de l'Église de Vatican II, et d'un certain côté, on peut rajouter peut-être aussi les prêtres catholiques qui manquent de sainteté. Et ça, c'est valable pour moi aussi. Moi aussi, je n'ai pas de responsabilité, je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Mais ça, c'est très important. Donc, j'aime beaucoup cette phrase. Quand le sacerdoce se porte bien, toute l'Église s'en ressent, et s'il est corrompu, la foi en pâtit. Selon un peuple indiscipliné, on peut en conclure sans hésitation que son sacerdoce est malade. C'est peut-être une des raisons qui explique qu'il y ait le tout petit nombre d'évocations. Comment voulez-vous que quand les jeunes voient les mauvais exemples donnés par les prêtres de l'église de Vatican II qui font du n'importe quoi, comment voulez-vous qu'ils aient envie de devenir prêtres? Bon, j'espère que les prêtres dans la tradition catholique, surtout dans la tradition célibacantiste, les prêtres non unacum donnent un meilleur exemple, mais on a certainement, nous prêtres, des efforts à faire aussi de ce côté-là, je parle pour moi. Donc il faut bien considérer que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ entre dans le temple de Dieu et en chasse ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, quand il renverse les tables des changeurs, les sièges de ceux qui vendaient les colombes, quand il dit « ma maison sera appelée une maison de prière et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs », il ne parle pas simplement aux Juifs, hein. Il parle à chacun d'entre nous parce que je connais un autre temple de Dieu qui s'appelle mon âme. Et notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans mon âme parce qu'il est propriétaire de cette âme, c'est lui qui l'a faite. Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans mon âme et voit mon âme tout envahie par le péché, il a le droit de dire « ma maison est supposée être une maison de prière et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs ». Pourquoi? Parce que si notre âme est dans le péché mortel, il est évident que le démon est maître à bord. Donc celui qui utilise sa religion, disent les pères, pour un gain personnel est en réalité un voleur qui transforme le peuple de Dieu en caverne de voleurs. Donc pour nous prêtres, on a une responsabilité énorme parce que si la maison du prêtre, c'est-à-dire si son âme est en une caverne de voleurs, comment voulez-vous que ce prêtre puisse faire du bien autour de lui? Il ne peut plus rien faire. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé en France autour des années, fin des années 50, avec la mort du pape Pie XII, dernier pape légitime, avec l'arrivée de Jean XXIII et de toute la mascarade de Vatican II qui va commencer dès les années 60. Eh bien, il est évident que les prêtres ont arrêté de faire leur boulot. Pas oublier que c'est juste après 65, donc à la fin du Concile du Vatican II, que les évêques français, en France surtout, ont tout de suite dit à leur clergé, c'était la première conséquence du Concile Vatican II d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas plus tenu de garder votre soutane. Du jour au lendemain, pratiquement, tous les prêtres en France ont enlevé leur soutane. Après, on leur a dit, vous n'êtes plus tenu non plus de dire votre bréviaire tous les jours. Du jour au lendemain, ils ont arrêté de le dire. On leur a expliqué que le chapelet, c'était des choses du Moyen-Âge, ils n'ont plus besoin de le dire. Du jour au lendemain, ils ont arrêté de dire leur chapelet. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu déjà depuis longtemps l'amour du chapelet, l'amour de la soutane. Et en plus de ça, il a surtout perdu l'amour de la Sainte Messe. C'est pour ça que lorsque la Nouvelle Messe est arrivée en novembre 1969, du jour au lendemain, pratiquement tous les prêtres en France ont abandonné leur messe, la messe de leur ordination, ont pris cette espèce de foutaise qui s'appelle la Nouvelle Messe. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? Voilà la question qu'il faut se poser. Il manquait les convictions. Il manquait la force, là il faut la douceur, la force et les convictions. Il manquait les convictions, il n'était plus là, et la force sans doute aussi. Les convictions avaient disparu. Et comme la tête a pourri, comme le poisson pourrit toujours par la tête était pourrie, et bien tous les fidèles qui en principe devraient suivre l'exemple du clergé, comme le clergé ne faisait plus son travail, les fidèles ont perdu la foi. Qui est responsable? D'abord la tête. Après, premier lieu, bien sûr, les papes de l'église de Vatican II, puis les évêques de l'église de Vatican II et les prêtres de l'église de Vatican II. C'est ce qu'expliquent les pères. Mystiquement, ils expliquent que le temple de Dieu, c'est l'église du Christ, dans laquelle nombreux sont ceux qui ne vivent pas comme ils le devraient de manière spirituelle, mais selon la chair. Alors, ils transforment cette maison de prière, construite de pierres vivantes, en une caverne de voleurs. On pourrait dire que cette phrase, qui a été écrite par des pères de l'Église, je ne m'en rappelle plus par lesquels, mais il y a 16 siècles, ou 17 siècles, ou au moins 15 siècles, ces phrases semblent écrites pour aujourd'hui. Je vous les répète, ces trois phrases qui me semblent fondamentales. Quand le sacerdoce se porte bien, toute l'Église s'en ressent, mais s'il est corrompu, la foi en pâtit. Deuxième phrase, si on voit un peuple indiscipliné, on peut en conclure sans hésitation que son sacerdoce est malade. Quand celui qui utilise sa religion le fait pour un gain personnel, il transforme le temple de Dieu en caverne de voleurs. Et enfin, comme le temple de Dieu est l'église du Christ, dans laquelle nombreux sont ceux qui ne vivent pas comme ils le devraient de manière spirituelle mais selon la chair, cela, surtout le clergé, transforme alors cette maison de prière construite de pierres vivantes en une caverne de voleurs. Alors faisons l'examen de conscience de mon âme. Dans quel état est mon âme actuellement? De quand date ma dernière bonne confession? Qu'est-ce que je dois faire pour de nouveau avoir une chapelle transfigurée? C'est pour ça que la beauté extérieure d'une chapelle manifeste la beauté intérieure des âmes. Quand vous rentrez dans les églises modernes, que vous voyez les églises modernes toutes sales, toutes dégoûtantes, avec une espèce de bloc de béton à la place de l'autel, et sans aucune présence du Saint-Sacrement, comment voulez-vous que des jeunes qui rentrent là-dedans aient envie de devenir prêtres? Ils s'en vont courant, c'est normal. D'où l'importance d'avoir pour nous prêtres surtout de garder nos chapelles avec dignité, avec propreté, que les choses soient ordonnées, que les choses soient propres, que les nappes soient propres. Je vois souvent, parfois même dans la tradition, parfois des nappes qui sont sales, des nappes d'hôtel qui sont sales, des vêtements utilisés pour la liturgie qui sont sales, qui sont déchirés. Attention, il faut avoir ce minimum de respect pour notre Seigneur Jésus-Christ. Le respect extérieur va faciliter le respect intérieur. Et encore une fois, pour revenir à l'exemple que je viens de vous donner, si les prêtres ont enlevé la soutane dès 65, eh bien évidemment, la conséquence était le fait qu'ils se sont dit, puisque maintenant je suis habillé comme tout le monde, il faut que je vive comme tout le monde. Ils ont commencé à vivre comme tout le monde. Parce qu'un prêtre a une soutane sur le dos, non, c'est quelque chose. Je porte la mienne depuis plus de 45 ans. Ou 45 ans, quand un prêtre porte une soutane sur le dos, le fait qu'il se voit en soutane tout le temps, il passe dans un magasin, son reflet dans la vitrine du magasin lui manifeste encore une fois qu'il est en soutane, qu'une soutane sur le dos, toute une série de choses qu'on ne fait pas. On ne va pas faire des bêtises avec une soutane sur le dos. La soutane ne fait pas le prêtre, la soutane aide le prêtre à être fidèle. C'est absolument évident. Donc reprenons le texte des pères de l'Église, en bas de la page 4, sur les polycopiers. Examinons donc les trois types d'hommes qui sont jetés hors du temple. D'abord les acheteurs et les vendeurs, puis les changeurs d'argent et les vendeurs de colombes. Alors qu'est-ce que ça représente chez les pères? Donc les acheteurs et les vendeurs dans le temple de Dieu, nous disent les pères, sont les chrétiens qui passent leur temps à acheter et vendre avec peu de prières et de bonnes actions. On pourrait dire que ce sont les activistes, c'est-à-dire ceux qui remplacent la prière par l'action, prétendent ne pas avoir le temps de prier, et donc à la base ils veulent agir, ils remplacent la prière par l'action. Ils tombent dans l'activisme, dans le volontarisme ou dans ce qu'on appelle l'américanisme condamné par le pape Léon XIII le 22 janvier 1899 par la lettre apostolique Testem Benevolentiae. Qui était adressé au cardinal Gibbons, qui était cardinal prêtre de la Sainte Église romaine. Et cette lettre de condamnation de l'américanisme condamnait justement ceux qui voulaient faire passer les vertus active avant les vertus passives, en méprisant les vertus passives. Et c'est ce qui s'est passé. Cet activisme a entraîné la perte de millions d'âmes, et surtout des prêtres. Je voudrais vous en lire certaines parties. Donc le pape Léon XIII met en garde les fidèles, surtout les fidèles américains, c'est à eux qu'il s'adresse, mais en fait c'est aussi valable pour chacun d'entre nous, hein, contre les opinions nouvelles. Et il dit le principe de ces opinions nouvelles, il parle en 1899, le principe de ces opinions nouvelles dont nous venons de parler peut se formuler à peu près en ces termes. Deux points. Pour ramener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme et que, se relâchant de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Or, ce principe, beaucoup l'étend non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi. Ils soutiennent en effet qu'il est opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance, ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église s'est toujours tenue. Puis le pape Léon XIII précise « La doctrine de la foi révélée par Dieu était présentée à l'esprit humain non comme un système philosophique à perfectionner, mais comme un dépôt divin confié à l'épouse du Christ qui doit finalement le garder et l'interpréter infailliblement. Le sens que notre Sainte Mère l'Église a une fois déclaré être celui des dogmes saints doit être toujours conservé et jamais il ne s'en faut écarter sous le prétexte ou l'apparence d'en mieux connaître, pénétrer la profondeur. Ce qu'il dit est aussi évidemment valable pour l'interprétation de l'Écriture sainte. Puis il cite Vatican I. Il faut croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite et enseignée par l'Église, soit par une définition solennelle, soit par son magistère ordinaire et universel, propose comme devant être cru, révélé de Dieu. Puis il précise, dans le sujet dont nous vous entretenons, cher fils, le dessein des novateurs est encore plus dangereux et plus opposé à la doctrine et à la discipline catholique. Il pense qu'il faut introduire une certaine liberté dans l'Église afin que la puissance et la vigilance de l'autorité étant jusqu'à un certain point restreinte, il soit permis à chaque fidèle de développer plus librement son initiative et son activité. Ils affirment que c'est là une transformation nécessaire, comme cette liberté moderne qui constitue presque exclusivement à l'heure actuelle le droit et le fondement de la société civile. Puis il rajoute, la licence confondue un peu partout avec la liberté, la manie de tout dire et de tout contredire, enfin la faculté de tout apprécier et de propager par la presse toutes les opinions ont plongé les esprits dans des ténèbres si profondes que l'avantage et l'utilité de ce magistère sont plus grands aujourd'hui qu'autrefois pour prémunir les fidèles contre les défaillances de la conscience et l'oubli du devoir. Qu'est-ce que le pape Léon XIII dirait aujourd'hui? On peut se poser la question. Puis le pape Léon XIII va aborder certains sujets très pratiques qui caractérisent ce qu'on appelle l'américanisme. Et c'est ça, encore une fois, ce sont ces fausses idées qui malheureusement sont diffusées partout, et bien que condamnées dès 1899 par Léon XIII, sont diffusées partout après, surtout après Vatican II. Et c'est ça qui explique la catastrophe de la foi catholique, surtout en France aujourd'hui. Première erreur, dit-il, on rejette toute direction extérieure comme superflue et moins utile pour ceux qui veulent tendre à la perfection chrétienne. L'Esprit Saint, dit-on, répand aujourd'hui dans les âmes fidèles des dons plus étendus et plus abondants qu'autrefois. Il les éclaire et les dirige sans intermédiaire par une sorte de secret instinct. Ça, c'est du pur protestantisme. Puis il ajoute, ces amateurs de nouveautés vantent outre mesure les vertus naturelles comme si elles répondaient davantage aux mœurs et aux besoins de notre temps, et comme s'il était préférable de les posséder parce qu'elles disposeraient mieux à l'activité et à l'énergie. On a peine à concevoir comment des hommes pénétrés de la doctrine chrétienne peuvent préférer des vertus naturelles aux vertus surnaturelles et leur attribuer une efficacité et une fécondité supérieure. Autre passage très important de Léon XIII. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache étroitement une autre opinion qui partage en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les passives et les actives, suivant leur expression. Ils ajoutent que les premières convenaient mieux au siècle passé, tandis que les secondes sont mieux adaptées au temps présent. C'est évident que les vertus passives sont toutes les vertus qui dépendent de l'humilité. Au contraire, les vertus dites actives sont les vertus plus directement apostoliques, comme par exemple la vertu de force, et les autres vertus qui en découlent. Que faut-il penser, dit le pape Léon XIII, que faut-il penser cette division des vertus? La réponse est évidente, car de vertus vraiment passives, il n'en existe pas, il n'en peut exister. La vertu, dit saint Thomas d'Aquin, implique une perfection de la puissance, sur la fin de la puissance est l'acte, et l'acte de vertu n'est autre chose que le bon usage de notre libre arbitre, accompli avec l'appui de la grâce divine, s'il s'agit d'un acte de vertu surnaturel. Pour prétendre qu'il y a des vertus chrétiennes plus appropriées que d'autres à certaines époques, il faudrait oublier les paroles de l'apôtre, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Puis il précise, le Christ ne change pas avec les siècles. Il est le même aujourd'hui qu'il était hier et qu'il sera dans tous les siècles. C'est donc aux hommes de tous les temps que s'adresse cette parole. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il n'est pas d'époque où le Christ se montre à nous comme s'étant fait obéissant jusqu'à la mort. Elle vaut aussi pour tous les temps cette parole de l'apôtre. ceux qui sont disciples du Christ ont crucifié leur chair avec leurs vices et leurs concupiscences. Plût à Dieu que ces vertus fussent pratiquées aujourd'hui par un plus grand nombre avec autant de perfection que les saints des siècles passés. Ceux-ci, par leur humilité, leur obéissance, leur austérité, ont été puissants en œuvre et en parole pour le plus grand bien non seulement de la religion, mais encore de leurs concitoyens et de leur patrie. De cette sorte de mépris des vertus évangéliques appelées à tort passives, on devait facilement en arriver à laisser pénétrer peu à peu dans les âmes le mépris de la vie religieuse elle-même. Et méditons la conclusion du pape Léon XIII. De tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il ressort, cher fils, que nous ne pouvons approuver ces opinions dont l'ensemble est désigné par plusieurs sous le nom d'américanisme. Si on emploie ce terme non seulement pour désigner les doctrines ci-dessus mentionnées, mais encore pour les exalter, est-il permis de douter que nos vénérables frères, les évêques d'Amérique, seront les premiers avant tous les autres à les répudier et à les condamner comme souverainement injurieux pour eux-mêmes et pour toute la nation? Il faut supposer en effet qu'il en est chez vous qui imaginez et désirez pour l'Amérique une église autre que celle qui est répandue par toute la terre. Il n'y a qu'une église, une par l'unité de la doctrine comme par l'unité du gouvernement, c'est l'église catholique. Et parce que Dieu a établi son centre et son fondement sur la chair du bienheureux Pierre, elle est à bon droit appelée romaine, car là où est Pierre, là est l'église. Ce texte de Léon XIII n'a pas pris une ride et s'applique exactement à notre sujet. Donc il faut retravailler tous ces textes qui sont tellement importants. Vous voyez, pour que nous aussi, nous ne soyons pas rejetés du temple, comme malheureusement tous ces prêtres modernes qui ont perdu la foi. Avec la grâce du bon Dieu, tout est possible, mais il faut aussi mériter cette foi, de pouvoir la garder, la mettre en pratique par la vertu de charité. Donc il faut méditer sur ce que disent ces pères de l'Église, sur justement ceux qui sont jetés du bon Dieu parce qu'ils ont transformé une maison de prière en une caverne de voleurs. Et n'oublions pas que cette maison de prière représente aussi notre âme personnelle. Alors ça, je voulais citer un peu ces textes de Léon XIII parce que je crois qu'ils s'appliquent exactement à notre situation actuelle. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long là-dessus. Donc examinons les trois types d'hommes qui sont jetés hors du temple. Donc je reprends ce passage. À la page 4, en bas de la page, les acheteurs et les vendeurs dans le temple de Dieu sont les chrétiens qui passent leur temps à acheter et vendre avec peu de prières et de bonnes actions. Là, je viens d'expliquer, c'est ce qu'on appelle la tentation américaniste. Je vous conseille aussi, pour ceux qui ont un peu de temps, non seulement d'étudier la lettre Testem Benevolentiae, on peut la voir sur internet très facilement, et également d'étudier la grande encyclique du pape Saint Pédis qui consiste à qui est la condamnation du sillon. Donc en 1910, c'est la lettre Notre Charge Apostolique. Je me permets aussi à ce sujet, pour tous ces sujets-là, d'adaptation au monde moderne, de lutte contre l'esprit moderne dans nos intelligences, je vous conseille beaucoup un livre ancien que je n'avais pas lu, malheureusement, je me le reproche bien, je n'avais pas lu, bien qu'il était dans mon ordinateur depuis assez longtemps. Et je vous conseille beaucoup ce livre qui a été écrit autour des années 1909 par un ancien député de la Moselle qui s'appelle Émile Keller. Il a écrit un livre magnifique, très important à mon avis, qui s'appelle « Les syllabus de Pie IX et Saint Pédis et les principes de 1789 où l'Église, l'État et la liberté ». Vous pouvez avoir le PDF de ce livre à la bibliothèque Saint-Libert, donc liberius.net, sur Internet. Vous pouvez avoir le PDF gratuitement de ce livre que je vous conseille beaucoup, qui explique bien justement comment les principes de 1789 ont tué littéralement beaucoup de catholiques et comment il nous faut suivre justement le syllabus de Pie IX, le syllabus de Saint-Pédis. Le syllabus de Pie IX, c'est 1864, c'est Quanta Cura, le syllabus. Et le syllabus de Saint-Pédis, c'est Lamentabili, donc juillet 1907. C'est à étudier pour justement avoir les idées claires là-dessus. Donc je reprends mon texte des Pères de l'Église. d'autres sont jetés hors du temple, qui sont les changeurs d'argent, nous disent les pères, dont le Christ renverse les tables. Et ces changeurs d'argent, justement, ça tombe bien, ils disent, les pères de l'Église disent, ce sont les clercs, les membres du clergé qui ne disposent pas correctement des fonds de leurs églises, mais qui deviennent riches grâce aux aumônes des pauvres. Dans le temple de Dieu, il ne devrait pas y avoir de pièces de monnaie, sauf si elles sont spirituelles, portant l'image de Dieu et non une image terrestre. Bien, c'est ce qui est dit là, s'applique exactement à ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que c'est que le modernisme? Saint Pie X disait, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et le modernisme est passé malheureusement dans l'exégèse, ce qui fait que, au lieu d'avoir un esprit catholique d'interprétation de l'Écriture sainte, on a un esprit terrestre. On interprète comme des hommes et non plus comme des membres de l'Église catholique. Enfin, les pères disent que d'autres sont jetés hors du temple, qui sont les vendeurs de colombes, pour expliquer qu'une seule colombe, celle du Saint-Esprit, est descendue sur le temple de son corps. Et donc, il ne faut pas accepter les colombes humaines, mais prendre la colombe divine. Le Seigneur donc parle par ses actions et non par ses cris, comme les changeurs du temple. Ceux qui y sont guéris rappellent que personne ne peut être guéri spirituellement hors de l'Église à qui a été donné le pouvoir de délier et de lier. On voit très bien que ces commentaires des pères de l'Église, qui sont tellement méprisés aujourd'hui, doivent être vraiment étudiés, connus, loués et honorés. On voit toute la persécution, par exemple, contre les grands exégètes. Je pense par exemple à Don de Montléon, qui écrivait il y a une bonne cinquantaine d'années, peut-être même un peu plus, qui était à l'abbaye de la Source à Paris, l'abbaye bénédictine, et qui était déjà mais persécuté par ses confrères bénédictins, parce que dans ses livres, qui sont extraordinaires, qui expliquaient l'Écriture sainte, surtout l'Écriture sainte de l'Ancien Testament, dans l'esprit des pères de l'Église, justement, il cherchait les explications dans les pères de l'Église et refusait les explications modernes. Il a été traîné dans la boue, honni par ses condisciples, justement parce qu'il refusait l'interprétation moderne de l'Écriture sainte. Avec raison. Alors, au verset 16, que nous avons déjà lu, Jésus dit, « De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, vous avez tiré une louange parfaite. » Voyons un petit peu l'interprétation des pères là-dessus aussi. Il dit qu'on donne aux enfants du lait, qui représente les œuvres miraculeuses qui invitent gentiment à la foi. On donne du pain, qui est la doctrine de la perfection que personne ne peut recevoir sans avoir ses sens d'abord exercés dans les choses spirituelles. Donc il faut remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ, entrant dans Jérusalem, c'est la page 5 sur le polycopier, en haut de la page, Jésus entrant dans Jérusalem n'alla pas à la citadelle de Sion comme un second David, mais au temple pour bien montrer qu'il est le Fils de Dieu le Père, qui a été adoré dans le temple pour y renvoyer l'honneur qu'on lui témoignait dans le temple, car il était là pour mener les gens à Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ chasse les marchands du temple précisément parce qu'il remplace Dieu par l'homme. Ça, c'est le crime de la civilisation moderne. C'est le crime de l'Église de Vatican II. On remplace Dieu par l'homme. C'est donc une espèce d'esprit, c'est l'esprit de la Renaissance, c'est l'esprit protestant, c'est l'esprit du modernisme. C'est pour ça que Saint Pie X disait que, si vous voulez, le modernisme, c'est une espèce de sac qui contient toutes les erreurs, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Les pères font également remarquer que le Christ chassa deux fois les vendeurs du temple. La première fois au début de sa prédication, c'est dans Saint Jean chapitre 2 verset 14, et la deuxième fois à la fin, 4 jours avant sa mort, dans le texte que nous venons de voir, Saint Matthieu chapitre 21 verset 12 et suivant. Donc si on expliquait un petit peu maintenant anthropologiquement, c'est-à-dire moralement parlant, la signification de ces changeurs du temple qui sont jetés en dehors du temple par notre Seigneur, eh bien ces changeurs d'argent sont les simoniaques. Mais en réalité, ils représentent également tous les pécheurs qui profanent leurs âmes, qui sont les temples de Dieu, qui sont le temple de Dieu, par des mauvais désirs et des péchés. Selon les paroles de Saint Paul, ne savez-vous pas que vos membres sont le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un donc profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, nous sommes des changeurs, nous aussi, nous serons éjectés du temple si nous profanons nos âmes par le péché, parce que notre âme est le temple de Dieu. Donc, le péché de Simonide, on fait allusion ici, les pères, c'est le péché par lequel on vend un sacrement, une chose sacrée. C'est quelque chose de très fréquent. Il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, j'ai eu un mariage comme ça, et le curé moderniste qui devait au début célébrer le mariage, n'a eu de cesse d'exiger de l'argent des personnes qui mariaient. Et il a fait une espèce de petite cérémonie complètement moderniste, et à la fin de la cérémonie, la première chose qu'il a faite, c'était demander un chèque de 120 euros aux personnes qui venaient soi-disant de marier. C'était vraiment la simonie pure et simple. On vend les sacrements pour de l'argent. Il y a une peine d'excommunication pour cela. Attention. Donc, n'oublions pas que le temple de Dieu, c'est mon âme. Et que je dois protéger mon âme à cause de la dignité de ce temple, puisque je suis, par le baptême, marqué d'un caractère d'enfant de Dieu. Le temple n'est pas une maison pour parler, pour spéculer, pour boire ou pour médire du prochain, mais c'est une maison de prière. Si ceux-là qui profanaient le temple ont été châtiés par le Christ, qu'en sera-t-il des chrétiens qui font ces mêmes choses, et même pire, devant le très saint sacrement? N'oublions pas l'obligation pour un catholique d'avoir ce respect pour le très saint sacrement, d'abord présent dans le tabernacle, mais aussi présent dans notre cœur, dans notre âme, après la sainte communion. Je vous l'ai déjà souvent dit, quand je veux juger un petit peu de la valeur spirituelle de fidèle, que je connais mal ou pas du tout, je vérifie combien de temps il passe, je regarde combien de temps il passe en prière personnelle après la messe, après avoir communié. Ce qui reste, ce qui font un petit peu d'action de grâce après la sainte messe, parce qu'ils rentrent, ils partent, ils quittent la chapelle immédiatement. Combien de fois j'ai vu des gens qui prétendaient ne pas avoir le temps de rester après la Sainte Messe pour faire un minimum d'action de grâce après la Sainte Communion, mais qui qu'on retrouvait après papoter pendant des heures avec les fidèles de la chapelle. Donc attention à passer un minimum de temps, moi je pense que le minimum c'est 5 à 10 minutes de raison particulière, privée, pour faire votre action de grâce après la messe à la chapelle, pour remercier le bon Dieu d'être passé dans votre âme, d'être venu dans votre âme. Rappelez-vous le mot qu'on utilise pour ce genre d'action de grâce, vous pouvez très bien utiliser ça, le mot ardor, A-R-D-O-R, A pour adoration, R pour remerciement, D pour demande, O pour offrande, et R pour résolution. Donc les vendeurs de colombes, sur le plan mystique, qui est le symbole du Saint-Esprit, sont ceux qui vendent la grâce du Saint-Esprit, qui vendent les ordres, le sacerdoce et les bénéfices, ce qu'on appelle les simoniaques. C'est malheureusement une chose qui demeure. On dit, c'est sans doute vrai, que la seule tradition que l'Église de Vatican II a conservée, c'est la tradition de la quête. Et malheureusement, je crois que c'est vrai. Donc le mot... Attendez, on reprend là où j'en suis. Donc, il y a trois sortes d'enfants qui louent Dieu. Il y a ceux qui le louent par leur mort et non par leur bouche, comme les saints innocents qui furent massacrés par Hérode au nom du Christ. Donc, le bon Dieu leur a fait la grâce d'avoir accepté leur mort. Il leur a donné en quelque sorte miraculeusement l'usage de leur raison. Ils ont accepté leur martyre, c'est pour ça qu'ils sont vraiment martyrs. Puis ceux qui louent Dieu par leur bouche plutôt que par leur mort, comme ceux qui chantaient Hosanna au Christ. Et enfin, ceux qui le louent avec leur bouche et leur mort. Les pères donnent l'exemple de Sainte Agnès, qui est morte martyre à 13 ans, Saint Pancras à 12 ans, Saint Vite, Saint Cels et tous les autres martyrs. Vous voyez donc, je pense que c'est ce texte donc de Saint Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 13, est très important, parce que ce Jésus qui chasse les vendeurs du temple représente le châtiment de notre Seigneur pour les âmes superficielles, les âmes qui ne prennent pas suffisamment soin de la dignité qu'il a leur reçue par le baptême. Avançons en bas de la page 5 du polycopier, Saint Matthieu chapitre 21, versets 17 à 22. Les ayant laissés, notre Seigneur s'en alla hors de la ville à Béthanie où il demeura. Le matin, revenant à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit qu'à jamais il ne naisse de toi aucun fruit. Et aussitôt, le figuier se dessécha. Voyant cela, les disciples s'étonnèrent et dirent, « Comment s'est-il desséché en un instant ?» Et Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi que vous n'hésitiez point, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle le ferait. Et quoi que ce soit que vous demandiez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Alors voyons un petit peu les explications des pères en haut de la page 6 du polycopier. Donc ce figuier desséché représente la synagogue qui était vivante sous la loi mais non sous le Christ puisqu'elle le rejeta. La figue, fruit du figuier, qui a une multitude de grains sous une peau, symbolise l'assemblée des fidèles. Mais le Christ ne trouve rien sur le figuier sauf des feuilles. Parce que les pharisiens n'ont gardé que l'enveloppe de la loi, les traditions pharisaïques, mais sans les fruits de la vérité. N'oublions pas aussi que ce figuier desséché, encore une fois, c'est aussi la représentation de notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ vient voir le figuier de notre âme, il s'en approche, mais s'il n'y trouve que des fruits, qu'il n'y trouve aucun fruit, il va maudire ce figuier. Et le figuier va se dessécher. Notre Seigneur Jésus-Christ a le droit, quand il vient dans notre âme, de trouver des figues sur le figuier. C'est-à-dire de trouver des fruits spirituels dans notre âme qui a été marquée par le sacrement de baptême et donc marquée par le caractère du baptême. Nous sommes des enfants de Dieu. Le bon Dieu ne va pas aller chercher des fruits de la grâce dans les âmes des musulmans, des bouddhistes ou des athées. Mais par contre, il a le droit d'exiger des fruits dans les âmes des catholiques à cause du fait que nous sommes marqués par le baptême. Attention. La synagogue juive, disent les pères, est ainsi stérile et le sera jusqu'à la fin du monde quand la multitude des gentils rentrera dans l'église. Donc le figuier se dessécha alors que le Christ était encore sur la terre car les vertus qui donnent la vie étaient passées aux gentils. Donc, c'est la nouvelle alliance qui prend la place de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est exclusivement judaïque. La nouvelle alliance représente justement la conversion à la foi catholique parce que tous les premiers membres de l'Église catholique étaient pratiquement tous, encore une fois, des juifs convertis à la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son Église catholique, si vous voulez, a décrété la fin de l'Ancien Testament, et après sa résurrection, c'est le début du Nouveau Testament. C'est pour cela que le voile du Temple se déchire en deux. Donc ce figuier desséché symbolise également celui qui ne garde que la profession de foi, mais qui n'a pas les œuvres de la foi de solides fruits de vertu. Comme le figuier qui n'a que des feuilles, le chrétien superficiel va finir par perdre la foi, quand Pierre le dit à Simon le magicien, votre cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc, attention, si je n'ai pas les œuvres de la foi, sans la vertu de charité, eh bien à ce moment-là, ma foi est vaine. Je n'ai pas de solide fruit de vertu à donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, il faut que la foi soit vivifiée par la vertu de charité. C'est pour cela qu'on dit que la vertu de charité est la forme de la foi. La foi sans la charité est une foi informe, une foi qui va mourir. Il vaut mieux que ce figuier trompeur que l'on croit vivant soit desséché plutôt qu'il ne vole des cœurs innocents. Je pense qu'on peut faire des applications de cette partie de l'évangile très facilement dans le monde moderne. Combien de parents, par exemple, autour des années 60, ont confié leurs enfants, leur progéniture, enfants baptisés, à des écoles dites catholiques, en pensant que leurs enfants étaient préservés, qu'ils seraient correctement éduqués. Malheureusement, ces parents, eux, ont manqué à leur devoir en ne vérifiant pas ce qui était fait par l'école catholique. Et puis, 20 ans plus tard, ils se sont rendus compte que leurs enfants avaient tous perdu la foi, pervertis par l'école dite catholique, qui était en fait une école complètement moderne.
Malheureusement, quand ils s'en sont aperçus, c'était trop tard, les enfants avaient tous perdu la foi. Et on le voit très bien, cette génération qui a suivi la génération des années 60, enfin des années 50 d'après-guerre, si vous voulez, les enfants qui sont passés par le modernisme qui commençait à apparaître, à poindre le bout de son nez dans les églises en France, eh bien, tous ces enfants, toute cette génération a été une génération pratiquement entièrement sacrifiée, et cette génération a perdu la foi. C'est la génération qui est la mienne. Bon, certes, avec la grâce du bon Dieu, il y a des gens qui ont conservé la foi. Je ne sais pas comment le bon Dieu a permis que je conserve la mienne. Bon, c'est vraiment un miracle du bon Dieu. Mais attention, si je ne fais pas attention à garder la foi animée par la vertu de charité, je vais devenir un figuier desséché. Je vais devenir comme mon âme va être transformée en une maison de caverne de voleurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ va maudire le figuier desséché ou va jeter en dehors de mon âme les marchands du temple. Justement parce que je ne suis pas fidèle à ma vocation. Il y a dans le cœur des incroyants une grande montagne, disent les pères, qui sera enlevée par les paroles des disciples du Christ. Quand il maudit le figuier et le déchet, il manifeste son pouvoir et montre à ses ennemis, les scribes et les pharisiens, qu'il pourrait très bien les dessécher de la même façon. Trois jours après, le vendredi, pendant la saison pascale, le 25 mars, le Christ fut crucifié. C'est intéressant de voir que les pères de l'Église disent que le Christ fut crucifié le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Il y a tout un symbole, évidemment. Notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé en ce monde, tout petit, dans le sein de sa mère, le jour de l'Annonciation, le 25 mars, et il va mourir 33 ans plus tard, le jour du Vendredi Saint. Là, les pères donnent un exemple qui est très beau. Ils disent que saint François maudit également un genévrier planté par le bienheureux Junipère, un de ses premiers compagnons, en punition pour une désobéissance. Et cet arbre maudit, qui ne poussa plus jamais, peut encore être vu à Carinula ou Calenum, une ville de la Campanie en Italie, près de Mondragonium, dans un monastère des frères mineurs. Le frère Junipère était en train de planter cet arbre lorsqu'il fut appelé par saint François, mais il termina son travail avant que de lui obéir. Et saint François maudit cet arbre parce qu'il avait été un objet de désobéissance. Et l'arbre obéit pour montrer aux hommes le mal qu'est la désobéissance. Et l'arbre, le genévrier en question, se dessécha immédiatement. Donc il y a des symboles aussi derrière. Le Christ maudit cet arbre parce qu'Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit et qui dessécha ainsi le premier homme, lui et toute sa postérité. Donc le figuier représente aussi, le figuier desséché représente aussi les Juifs et Juifs incroyants qui perdurent la sève de la foi et de la grâce et qui n'ont donc ne donnèrent jamais de fruits des bonnes œuvres. Alors posons-nous la question, est-ce que je donne des bonnes œuvres? Est-ce que je donne du fruit? Est-ce que mon âme est vivifiée par la charité? Et est-ce que mon âme donne du fruit? Si je n'ai pas de fruit, si mon âme ne donne pas de fruit, l'arbre sera maudit par Dieu. Une petite note sur le plan moral, petite note d'histoire, c'est intéressant, si je trouve ça dans les pères aussi. À cause de l'infidélité des Turcs, qui étaient les maîtres de la Terre Sainte, les anges, en 1291, transférèrent de Nazareth en Dalmatie la maison de la Sainte Vierge dans laquelle avait eu lieu le mystère de l'incarnation. Donc en 1291, la maison dans laquelle le mystère de l'Annonciation s'était accompli, à Nazareth, la maison de la Sainte Vierge Marie, donc cette maison est miraculeusement arraché de ses fondations, transporté par les anges en Dalmatie. Je crois que c'est actuellement en Yougoslavie. Puis, en 1294, cette maison fut de nouveau déplacée, deux fois de suite d'ailleurs, en Italie et finit par atterrir à Lorette. Lorette en Italie. Vous savez que les Italiens, une fois qu'ils ont récupéré la maison de Nazareth à Lorette, se sont dépêchés de construire au-dessus une autre église pour être sûr qu'elle ne s'envole pas de nouveau. Elle est toujours là-bas, donc à Lorette, en Italie, on peut vénérer la maison dans laquelle l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir la mère du Sauveur. Avançons donc dans ces explications des pères. Saint Matthieu, verset 21, chapitre 21, pardon, verset 23-27. Lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les princes des prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui pendant qu'il enseignait. Et lui dirent, par quelle autorité faites-vous ces choses? Et qui vous a donné ce pouvoir? Et Jésus leur répondit, je vous adresserai moi aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient entre eux et disaient, si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous regardaient Jean comme un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons. Et il leur répondit lui aussi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. On voit très bien là, dans les pharisiens et les scribes, le manque de bonne volonté. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Souvent, je reçois les coups de téléphone de gens qui veulent envoyer quelqu'un faire la retraite en disant, monsieur l'abbé, est-ce que vous acceptez n'importe qui à la retraite? Vous dire si Saint-Ignace. Je réponds toujours la même chose, oui, j'accepte n'importe qui, à condition que cette personne ait la bonne volonté. Il faut qu'elle ait la bonne volonté, qu'elle cherche le vrai. N'importe qui cherche le vrai, même si c'est un communiste encarté au Parti communiste français, même si c'est un protestant ou un moderniste complet, je le prends à condition qu'il cherche vraiment le vrai, qu'il garde le silence, qu'il suive les méditations, qu'il suive les conférences de retraite et qu'il fasse les méditations le mieux possible. À ce moment-là, je le prends. Donc, comme les Juifs n'étaient pas dignes d'entendre de tels mystères, le Christ ne leur répondit pas, mais au contraire leur posa une question à laquelle ils ne pouvaient répondre. Et on voit très bien, c'est l'application de la phrase de l'Évangile que vous connaissez bien, qu'il ne faut pas jeter devant les pourceaux les perles du bon Dieu. C'est-à-dire que le bon Dieu, quand il voit qu'une personne ne recherche pas le vrai, eh bien, s'écarte de cet âme. Donc, craignons que le bon Dieu ne fasse avec nous les mêmes choses, et lui aussi s'écarte de notre âme. Nous arrivons à la page 7, donc versets 28 à 32 de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21. Que vous en semble, dit notre Seigneur. Un homme avait deux fils, et s'approchant du premier, lui dit, mon fils, allez aujourd'hui travailler à ma vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Et ensuite, touché de repentir, il y alla. S'approchant ensuite de l'autre, il lui dit la même chose. Et celui-ci répondit, j'y vais, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Et lui dirent le premier. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous dévorceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de justice, de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas repenti ensuite pour croire en lui. Donc notre Seigneur ici nous met en garde, attention. De même que la plupart des Juifs ne se sont pas convertis, et que notre Seigneur Jésus-Christ a transféré le peuple élu de la religion juive à la nouvelle religion catholique. De la même façon, aujourd'hui, si nous ne répondons pas au travail de la grâce, au fruit de la grâce, eh bien le bon Dieu va tout simplement aller chercher d'autres personnes pour prendre nos places dans le royaume des cieux si nous ne sommes pas fidèles à toutes nos obligations. Hein, donc attention, attention à cela. Donc ces deux fils représentent le peuple des gentils et le peuple des juifs. Les pères disent que le fils aîné représente le peuple des gentils, c'est le peuple des non-juifs, et le plus jeune, le peuple des juifs. Depuis le temps de Noé, il y avait des gentils. Le père vint au premier fils et lui dit d'aller travailler aujourd'hui à la ville. Et il lui parla non pas face à face comme un homme, mais directement dans son cœur comme Dieu, lui instillant la compréhension par les sens. Pour travailler dans la vigne, il faut en justice plusieurs personnes, car une personne seule n'est pas suffisante pour le travail. Donc Dieu parla d'abord aux gentils, qui avaient la connaissance de la loi naturelle, allez et travaillez à ma vigne. Mais ils ne verront que plus tard, à la venue du Sauveur, après avoir fait pénitence pour travailler dans le vignoble de Dieu et rattraper par leur travail l'opiniâtreté de leur refus. D'où la phrase, touché de repentir, il y alla quand même. Voilà, donc je vais arrêter ici. étant fidèle à mon habitude de ne pas trop dépasser une heure de temps pour que les fidèles ne soient pas trop surchargés intellectuellement et surnaturellement par ces cours. Les cours sont trop longs, beaucoup de fidèles décrochent un peu. Alors, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin et Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.